Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mars 1993. Nous reprenons la lecture du livre « Vivre à Hébron » de June Levitt aux éditions Robert Laffont. La vie n'est pas plus facile en cette période de fête de Pourim et la santé de June, à qui des calculs biliaires ont été diagnostiqués, n'arrange rien. Alors, quelques jours de vacances au bord de la mer, un voyage à Ashdod se met en place pour la famille, sauf Samuel. Il est impliqué dans un travail de guide pour touristes autour de la ville de Souchia et de ses ruines juives dans des vestiges romains. Maintenant, nous allons reprendre cette lecture là où nous l'avons laissée. Nous sommes le 6 mars. Achat d'une grande tente capable de contenir toute la famille, avec l'espoir de voyager un peu et camper avec, à la clé, voir de belles choses, nouvelles et réconfortantes. En fait, nous en sommes si excités que nous n'avons pas résisté au plaisir de la monter dans le salon. Esti, Myriam et leurs amis se font une fête d'y passer la nuit. J'espère au moins que nous pourrons ainsi leur redonner un peu de joie de vivre. La photo de Ava est sur la table d'Esti à l'école et chaque jour, elle la fleurit. La place de Ava reste vide. Aucune des filles n'a le droit d'y toucher. Pas plus qu'à ses cahiers, ses livres ou ses stylos. Comme si Ava allait revenir dans un instant et s'asseoir à nouveau parmi elles. Les parents de Ava ne parviennent d'ailleurs pas mieux à accepter sa disparition. Ils n'ont pas touché à sa chambre et à ses affaires depuis le jour de sa mort. Son père a seulement pris sa montre rose et la porte désormais à son poignet. Quel parent pourrait faire autrement ? Ava désirait un vrai parquet de bois pour pouvoir danser. Henri et Blanca l'installaient depuis quelque temps. Blanca veut aller jusqu'au bout et achever le parquet. 7 mars. J'ai mal pour Esti, si douce, si innocente. Pourquoi doit-elle déjà faire l'expérience de la mort ? J'avais son âge lorsque ma mère est morte du cancer. Mais j'aurais tant voulu que la vie d'Esti soit différente. Il paraît qu'elle et ses camarades de classe font des séances magiques pour ramener l'esprit de Ava parmi elles. Si cela est vrai, nous devons les en empêcher. L'adoration des morts, la conjuration de leur tombe n'est pas un comportement convenable pour les Juifs. Les cimetières juifs sont toujours à l'extérieur des villes. Les morts sont impurs. Il nous faut, au retour d'une visite au cimetière, nous laver les mains. Après s'être assis pour Shiva, celui qui a perdu un être si cher, soit-il, doit se relever et faire la fête. Le judaïsme est une religion de la vie. Parfois, c'est difficile. Un jour ou deux après une mort, j'entends des écolières chanter sous ma fenêtre et je me demande comment cela est possible. Comment osent-elles se réjouir si vite? Mais en fait, c'est peut-être là le moyen d'être plus fort, de prendre la joie quand elle est possible et de se défendre contre l'omniprésence tragédie. Une manière israélienne de vivre la vie normale jusqu'à la prochaine explosion. Au prochain coup de feu, au prochain accident. 9 mars. Triste fête de Pourim cette année. Surtout quand l'on songe que pendant ses vacances, un juif est supposé se réjouir si bruyamment qu'il ne sait plus la différence entre « béni soit Mardoché » et « maudit soit Aman ». En fait, comme pour Hanouka, c'est toujours avec anxiété que nous voyons les fêtes approcher. Chaque fois, il semble qu'un drame nous guette. L'évacuation du Sinaï en 1981 commença pendant Pourim, alors que nous dansions et chantions à Hatzona. Les enfants étaient déguisés en reine Esther, Mardoché ou les rois, le roi Assyrus. Alors même que nous faisions nos cadeaux de nourriture comme le veut la tradition, les soldats refoulaient nos voisins de Hatzéradar hors de leur colonie. Et puis aussi, c'est juste avant Pourim que Tzipi Harézi est morte. Et cette fois, Ava, les enfants refusent de se déguiser. Esti ne veut pas non plus retourner à son cours de danse à Jérusalem. Ava y était sa partenaire. Deux fois par semaine, elles faisaient ensemble le trajet, se racontant mille choses. L'une près de l'autre, elles découvraient le monde. Franck veut accompagner Esti à ses cours. Mais si attentif et tendre soit-il, un père ne peut remplacer la meilleure amie. 10 mars. Ici, on dit « le miel viendra de l'amertume ». Tout à fait mon genre de miel. De ces derniers mois si douloureux, j'ai appris une chose. L'univers possède un ordre moral. La santé, les contraintes, les habitudes saines sont des manières de s'y accorder. Que signifie la liberté? Choisir de se conformer ou non à cet ordre moral. Le prix de cette liberté, c'est la maladie et la dégénérescence. Le prix de la contrainte, la joie, la puissance et le sentiment du bien-être. 23 mars. L'échographie montre que, finalement, mes douleurs proviennent de plusieurs calculs biliaires. Bien heureuse que ce ne soit rien de pire. Un simple traitement devrait en venir à bout. Si le médecin veut me retirer la vésicule, j'irai voir un guérisseur. Peut-être y a-t-il un moyen naturel pour aider mon corps à résoudre de lui-même ce problème. Pénina, qui est aussi guérisseuse, avait donc parfaitement raison lorsqu'elle affirmait contre l'avis du médecin, qui ne songeait qu'au foie, que mes malaises venaient de la bile, la source de l'amertume. Oui, j'ai été si longtemps amère et rageuse. 28 mars. Je vais faire de ma lutte contre mes calculs un voyage spirituel. Première chose, faire une liste de tous les guérisseurs. Je les verrai l'un après l'autre et choisirai celui qui saura le mieux parler à mon âme. Pourquoi pas? Hier, je suis allée voir un médecin conventionnel. Il examine mon échographie puis déclare « Il faut vous opérer! Votre vie est en danger !» Sauf que je crois que l'esprit a le pouvoir sur le corps. Si mes frustrations et ma colère sont la cause de mes calculs, je dois parvenir à la guérison en changeant d'état d'esprit. Et si jamais je n'y parviens pas, au moins aurais-je appris à contrôler mes émotions négatives. 30 mars. Il y a quelque temps que je n'ai plus parlé des aventures des chèvres et du bienfaiteur des enfants. La dernière fois, elle broutait encore un peu partout dans Kiryat Arba. C'est ainsi que nos pères faisaient, affirmait le vieil homme. Ils couvraient les collines avec leurs troupeaux. Même s'il n'est qu'une source d'ennui, je l'aime bien pour cela. Il s'est apporté un peu de la vieille mémoire juive dans le moderne Israël. Néanmoins, le conseil local finit par arrêter ses chèvres lorsqu'elles se mirent à brouter l'herbe du stade. Elles furent embarquées dans un camion et vendues pour 3 sous à un arabe. De tous les dons du vieil homme, ne restaient plus que nos 2 ânes. Mais eux aussi eurent quelques aventures. L'un des deux, disparue très mystérieusement. Volée peut-être, vendue à un arabe. L'autre, le blanc, disparut à son tour, mais moins mystérieusement. Alors qu'il accomplissait sa période de réserve au quartier général de l'armée de Kiryat Arba, Frank tomba un jour sur quelques lignes du registre quotidien. Entre guillemets, vu par une patrouille, un nigo chevauchant un âne blanc et traversant le village arabe de Halul, destination supposée Jérusalem. Fermez les guillemets. Connaissant la prophétie qui dit que le Messie entrera dans Jérusalem sur un âne blanc, un petit malin a volé la pauvre bête en espérant être pris pour le sauveur. Toutefois, il ne semble pas que cela ait marché. En tout cas, pour autant que nous le sachions, hélas, l'âne a disparu dans l'affaire. Mais notre vieux bienfaiteur s'est encore attiré quelques ennuis. Il adore remplir sa maison de vagabonds. Il les nourrit, leur offre à boire, de quoi dormir, ne leur demande en contrepartie que de l'écouter tandis qu'il leur explique la Bible. Ainsi se retrouvent chez lui à toute heure du jour et de la nuit aussi bien des non-juifs que les laissés pour compte de Kiryat Arba. Un jour, une femme adultère qu'il avait accueillie lui dit quelque chose qu'il n'aima pas. « Je suis Joseph, répliqua-t-il, et toi tu es le blé. Le blé doit s'incliner devant Joseph. » Mais même Joseph a ses tracas. En l'occurrence, surtout, parce que les disciples et les amis du vieux sont arabes, il y a quelques nuits, alors que ce faible bonhomme dormait dans son salon, un résident de Kiryat Arba mal embouché versa du kérosène sur la porte d'entrée de son appartement et y mit le feu. La porte flamba comme une allumette. Par bonheur, personne ne fut blessé. 1er avril, Caïs a invité les garçons chez lui. J'ai défendu aux filles de les accompagner. Les jeunes filles arabes sont strictement surveillées. Ils ne comprendraient pas que nous les laissions ainsi se promener. Ils les prendraient pour des moins que rien. En fait, elles sont allées jusqu'à la clôture pour voir Ella et lui montrer la nouvelle poupée que leur grand-mère venait d'envoyer de Floride. Elles ont même voulu la lui offrir et nous avons eu toutes les peines du monde à leur expliquer que leur grand-mère en serait très peinée. Donc aujourd'hui, la famille de Caïs égorgeait une chèvre. Les garçons se sont précipités pour voir comment cela se passait. Les grands frères de Caïs maintiennent la chèvre sur le sol pendant que le père lui tranche la gorge. Mais ensuite, alors que la chèvre se vidait en tremblant de tous ses membres, ils étendirent le jeune frère de Caïs dans son sang. Ah, Samuel est revenu très choqué. 6 avril, la Pâque en solitaire. Si l'on peut parler de solitude avec 5 enfants. Les enfants se livrent avec plaisir au rite du pain volé. Une note. À Ficomen, lors du repas pascal, le père met de côté un morceau de pain rituel pour qu'il soit mangé à la fin du repas. Les enfants le dérobent et le père joue la surprise de le voir disparu. Puis il offre un cadeau pour remercier les enfants qui le rapportent. Samuel est venu un peu choqué. Alors, cette année-là, nous leur avons promis un voyage à Ashdod, au bord de la mer. Nous y camperons et Yossi passera l'examen d'entrée de l'Académie navale. Il l'a visité la semaine dernière, découvrant la mer, les élèves si élégants dans leurs uniformes, la fierté avec laquelle ils parlaient de leur école, des bateaux, de leur avenir de marin. Il devint totalement enthousiaste et n'a plus qu'une idée en tête, passer l'examen d'entrée. Toute cette semaine, il a repris ses 2 dernières années d'études qu'il avait jusque-là survolées. Il essaie vraiment de faire tout son possible et j'espère de tout mon cœur qu'il réussira cet examen. Ce serait parfait pour lui qui n'a encore jamais pu trouver sa place dans aucune école ni des enseignants qui parviennent à le passionner. Samuel ne viendra pas avec nous à Ashdod. Pendant les vacances, il travaille comme guide, conduisant les touristes à Dodan, autour des ruines de Susia, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Il revêt une tunique et pendant que les touristes balancent leurs jambes contre les côtes des ânes, il leur explique que Susia était une ville juive, couvrant les collines d'Hébron à l'époque des Romains. Pour une raison inconnue, les Juifs abandonnèrent leurs vignes et leurs pressoirs à huile, les synagogues, au sol recouvert de mosaïques, les maisons et les bains rituels. En arrivant au pressoir, Samuel allume un brasero et prépare un thé pour les touristes avant de revenir. Je suis très fière de lui. C'est un élève brillant et aussi un garçon qui a les pieds sur terre. 14 avril. 4 jours au bord de la mer. Pas d'autre bruit que les vagues venant caresser la plage. Le vert et le bleu illimité de la mer et du ciel, des navires faisant route de partout pour accoster dans le port. De quoi nous rappeler l'immensité du monde et nous nettoyer l'esprit. Chaque matin à l'aube, Joshua, notre garçon de 9 ans, se levait pour aller tondre le bois mort des arbustes et nous préparer le feu. Ensuite, il mettait l'eau à bouillir et nous réveillait avec un café brûlant. C'est un enfant incroyablement indépendant. Un jour, alors que je regardais loin sur la plage avec les jumelles, à plus d'un kilomètre peut-être, j'ai vu un petit garçon jouer dans les vagues. Comme il s'approchait peu à peu, grandissant à ma vue, je le reconnus. C'était Joshua, et complètement nu. Il avait ôté ses vêtements pour pouvoir courir après les vagues sans les mouiller. Las, une vague plus grosse que les autres les avait emportées. Chaque soir, nous faisions un feu de camp. Un doux moment d'intimité où chacun ouvrait son cœur et où la vie enfin montrait un visage paisible. Lorsque je m'allongeais sur mon matelas de sable, Myriam venait se lever tout contre moi. Ses beaux yeux verts, débordant de ses grandes et graves questions de son âge, et elle me les posait en chuchotant. « Maman, comment suis-je née ? Et toi, comment es-tu née ?» Lorsque nous arrivions à la question « Comment a commencé le monde ?», elle s'endormait doucement. Je restais avec les étoiles par milliers au-dessus de moi, et fermant les yeux, au lieu de revoir encore et encore le visage détruit de Hava, je m'endormais à mon tour, la tête pleine de bateaux, de mer et d'étoiles. Yossi a passé son examen. Cela a duré 6 heures. Comme plusieurs garçons abandonnés au milieu de l'épreuve, il s'est obstiné à aller jusqu'au bout. Jamais je ne lui ai vu tant de volonté. De retour à la maison, l'esprit et le corps rafraîchis par les 2 derniers jours de ses vacances de Pâques. Avec nous ici, une femme doctoresse d'Ashkelon, française de naissance, une femme très fine et intelligente, célibataire et sans enfant, ce qui ne l'empêche pas d'être sensible, peut-être même trop. Elle ressent pour Kiryat Arba une tension, une atmosphère difficile à supporter. Peut-être est-ce parce que nous vivons si près d'Hébron, où Abraham acheta un jour une caverne au Hittite Éphron afin d'y enterrer sa femme adorée, Sarah. Beaucoup plus tard, Abraham fut enseveli à son tour près de Sarah. Plus tard encore, Isaac et Rebecca, sa femme, furent enterrés dans une caverne contiguë. Puis, encore Jacob et Léa dans une autre. Et par-dessus toutes ces cavernes, Hérode construisit les premiers murs de ce que nous appelons aujourd'hui le caveau des patriarches, une solide forteresse de pierre, avec des minarets et des créneaux et meurtrières d'où l'on pouvait repousser les assaillants. Nous y sommes allés avec notre invité. Depuis chez nous, en bas de la colline, ce n'est pas loin. On passe par un chemin assez creux. De vieux Arabes dans leur djellaba sont assis devant leurs échoppes et des soldats israéliens patrouillent. C'est un lieu sacré, tout aussi bien pour les Arabes, puisqu'Abraham était le père d'Ismaël, et celui d'Isaac, selon Genèse 16 et 17. Les Arabes y ont des salles de prière couvertes de tapis qu'aucune chaussure ne doit jamais fouler. Dans une autre grande pièce, entre quatre piliers et sous une tenture ouvragée, une plaque de métal circulaire obture un étroit passage qui mène au tombeau. Cette dalle métallique est jalousement gardée par les Arabes. Aujourd'hui, il est interdit d'y descendre. Les Juifs partagent cependant cette salle avec les Arabes. Lorsque les uns viennent y prier, les autres ne le peuvent pas. Les Juifs ont d'autres pièces de prière, les salles remplies de sidourim, les livres de prière. Entre ces pièces, il y a les catacombes, closes par des portes de fer, et derrière, sur des blocs de marbre pareils à des tombes, des chandelles frissonnent éternellement dans l'obscurité. Il n'y avait pas 5 minutes que nous étions là avec notre invité, qu'elle m'agrippa par le bras. « Amenez-moi hors d'ici, je ne peux plus supporter cet endroit !» En fait, tous les pouvoirs de l'islam et du judaïsme sont concentrés ici. Selon la légende, ce lieu est la porte du Jardin d'Éden. Abraham l'a choisi pour cela. Avec Sarah, il aimait y venir pour prier, respirer le souffle parfumé du monde céleste. Et cette porte du Jardin d'Éden, c'est aujourd'hui un poste de l'armée qui la garde en paix, une paix qui n'existe plus. Il y a là tant d'os, de mort et d'esprit, tant de prières en arabe ou en hébreu qui luttent furieusement les unes contre les autres pour se faire entendre jusqu'au plus haut des cieux afin que la guerre entre l'islam et le judaïsme soit enfin déclarée. 20 avril. Caïs a demandé à mes garçons de ne plus venir chez lui. Après qu'ils l'ont quitté hier soir, un groupe d'Arabes a débarqué chez lui avec des couteaux et des haches. Ils l'ont averti que la prochaine fois que Samuel et Yossi reviendraient, il s'en servirait contre sa famille. Autant pour l'amitié dans le Moyen-Orient. Le 27 avril. Pour faire disparaître mes calculs, je me soumets au régime d'un guérisseur réflexologue. Le matin, avant de manger quoi que ce soit, je dois boire une demi-tasse d'huile d'olive mélangée à une demi-tasse de jus de citron fraîchement pressé. Ensuite, je dois me coucher sur le côté droit, les pieds relevés par des oreillers, de manière à ce que cette préparation puisse rester dans la vésicule biliaire. Il me faut demeurer ainsi pendant une 20aine de minutes. J'en profite pour lire autant que je le peux. Par exemple, des livres sur des gens comme Thomas Jefferson qui possèdent cette netteté d'esprit que je voudrais atteindre. ou des ouvrages sur les traitements naturels qui permettent de se clarifier et purifier le corps aussi bien que l'esprit. Le soir, étendu sur le dos, je dois garder pendant 2 heures des compresses d'huile de castor sur le ventre, maintenues par une bouillotte. Le rituel lui-même me semble thérapeutique. De m'obliger à suivre cette ordonnance très rigide, simplement parce que je crois qu'elle peut me guérir, me permet aussi d'approcher quelque chose d'essentiel qui me manque beaucoup, la foi. Rien n'est plus extraordinaire que d'avoir la foi. 29 avril. Franck a conduit Esti à sa classe de danse. Il faut revenir à ces activités qui donnent un sens positif à la vie. Et ce fut merveilleux pour elle d'entendre à nouveau le piano et sa maîtresse Asia, la grande dame des ballets israéliens, lui dire que ses pointes étaient parfaites. Dans 1 mois et demi, elles auront leur grand récital au Théâtre de Jérusalem. Esti a beaucoup de travail à faire pour rattraper son retard sur la classe. Mais cela lui sortira un peu de l'esprit la mort de Hava. 3 mai. Nouvelle grève des enseignants dans les écoles. Revendication pour les salaires. Quel mauvais exemple pour les enfants qu'ils sont supposés éduquer. Bien que toutes les écoles d'Israël aient été closes la semaine dernière, le syndicat des enseignants décida de les maintenir ouvertes dans les territoires occupés par souci de sécurité pour les enfants et afin qu'ils ne soient pas livrés à la rue et à tous les dangers qui nous y guettent. Une bonne idée qui n'empêche pas ce même syndicat, en pleine contradiction avec lui-même, de fermer les écoles aujourd'hui malgré tout. Le parfait exemple de la manière dont vont les choses ici, sans jamais aucune continuité, comme s'il était impossible que les jours puissent se suivre et se ressembler. 4 mai. Franck organise la visite de l'ancien grand rabbin d'Angleterre, Lord Rabbi Emmanuel Jacobowitz, à Kiryat Arba. Le grand rabbin est le sponsor du programme d'éthique médicale que coordonne Franck, et il y vient lui-même enseigner pendant 2 mois chaque année. Inquiet des protestations politiques qui pourraient avoir lieu parce que le grand rabbin a publiquement évoqué des compromis territoriaux pour obtenir la paix avec les Palestiniens, Franck a appelé Baruch Goldstein. Il lui a fait promettre de ne pas recommencer les manifestations qui, il y a quelques mois, avaient empêché l'avocat Barnea de prendre la parole. Pour donner son accord, Baruch veut que Lord Rabbi Jacobowitz ne prenne pas officiellement la parole en public. C'était le souhait de Franck, le grand rabbin ne devant rencontrer qu'informellement les médecins, les infirmières et les rabbins de Kiryat Arba. Baruch lui-même ne veut pas le voir. Il a cependant promis de parler à ses amis politiques et de les convaincre de laisser tomber. 5 mai. Nous avons pris une décision avec les autres parents de la petite classe de 6e d'Esti. Elles ne sont plus que 8 élèves. Puisqu'elles ont traversé ensemble la tragédie, nous voulons les envoyer ensemble dans la même école de Jérusalem. Maintenant, Esti et ses amis vont souvent chez les Wattsberg pour jouer avec le petit frère de Hava. En fait, David attend toujours le retour de sa grande sœur. À chaque fois, il est incapable de leur dire au revoir le soir. Il se cramponne à elle et ne veut plus les lâcher. Blanca a offert à chacune quelque chose appartenant à Hava. Esti a reçu un chat en porcelaine qu'elle conserve religieusement. 9 mai. Avec Franck à Ein Gedi. Pour la première fois depuis que nous y allons, toujours dans le but de nous ressourcer, il est advenu quelque chose d'extraordinaire. un instant presque aussi magique que celui de ma rencontre avec Frank dans le Vermont. Nous étions assis sur la plage au bord de la mer Morte. Frank lisait un article sur le concept philosophique japonais d'Inoki, fusion du souffle, de l'âme et de la vie. Et moi, un livre de Darwin, voyage d'un naturaliste autour du monde. J'en étais au chapitre sur l'Argentine. J'aperçus un groupe de gens qui ramassaient des pierres sur la plage. À son comportement, une femme avec des cheveux gris me sembla être leur guide. Lorsque tout le monde entra dans l'eau, elle s'assit dans la position du lotus. Autrefois, j'ai beaucoup aimé faire du yoga, mais j'ai abandonné en devenant une juive orthodoxe. Et puis, avec tout ce qui s'ensuivit. Mais ces derniers temps, à partir du moment où j'ai décidé que je devais me battre avec mon esprit pour nettoyer mon corps de ces maladies et trouver un nouvel équilibre, j'ai recommencé à en faire un peu. Aussi, voyant cette femme dans cette position, ce fut plus fort que moi. Surmontant ma timidité, je m'approchai d'elle et lui demandai si elle s'apprêtait à méditer ici. « Oui, ça vous intéresse ?» me répondit-elle. « Beaucoup, » fis-je en notant son accent. « D'où êtes-vous ? » « D'Argentine, mais je vis en Israël maintenant. Je suis venue ici avec ce groupe pour faire des exercices spirituels. Le but est d'arriver à ne faire qu'un avec ce qui nous entoure, une sorte de fusion avec l'univers. Cela vous plairait de vous joindre à nous ?» D'une certaine façon, je referme une boucle. En rencontrant Anna d'une si extraordinaire manière, supraordinaire, devrais-je dire, où chaque chose est comme prédestinée, pressentie et en accord, j'ai le sentiment de revenir à ce point de départ où j'ai rencontré Frank. Ce week-end à Ein Gedi me remet en contact avec un pouvoir supérieur et la meilleure part de moi-même. Une vie intérieure que je n'ai eue, même dans ma jeunesse, que si rarement l'occasion de laisser éclore. À l'époque, tout était rendu confus jusqu'à la folie par la solitude ou la drogue. La quête de la liberté détruisait tout. Pourtant, tout n'est pas complètement oublié. Il reste encore en moi cette part belle, faite de lumière et d'amour. Toute ma vie est ici, et ici encore plus. Les situations dans lesquelles je me suis trouvée n'ont fait que mettre en valeur mes points faibles. Si cela n'avait pas été, peut-être aurais-je fait une carrière honorable sans même avoir conscience de ses faiblesses. Mais, en fait, je commence à croire que nous sommes au monde pour corriger les points faibles de nos âmes. Et pour une étrange et énigmatique raison, ma place pour le faire est bien ici, dans ces collines de Judée-Samarie. La roue tourne. Le sentiment d'être à nouveau en marche, d'être à nouveau mû par quelque chose de plus fort et plus grand que moi est de retour, après tant de désespérance, de déréliction, de maladie, après 14 années de famine spirituelle dans la terre promise. Je crois que quelque chose va venir de cette rencontre avec Anna. Je veux croire que quelque chose va enfin venir à ma rencontre. Peut-être est-ce cela la rédemption? Un temps où les synagogues sont dans le cœur des hommes, où les pierres prennent la parole et où, comme pour Jacob, les anges deviennent visibles. À Ein Gedi, une vieille femme russe s'est brusquement jointe à nous pour la méditation. Elle nous dit qu'une force inexpliquée l'avait poussée hors de sa chambre, bien qu'il ne soit pas du tout dans ses habitudes de sortir si tôt. Elle était à Ein Gedi sans trop savoir pourquoi, attendant depuis 4 jours quelque chose qu'elle ignorait. Et pendant qu'elle faisait du yoga avec nous, elle murmurait sans cesse « 4 jours que j'attends. 4 jours ? 4 jours de perdu. Plus tard, tandis que nous prenions le petit déjeuner, elle s'est mise à parler et à vider son cœur. Son mari était mort 8 mois plus tôt. Une femme du groupe, elle s'appelait Ruth, l'a pris dans ses bras et pleura avec elle. Et ainsi, cette vieille femme finit par trouver ce que son âme cherchait depuis 4 jours. 10 mai, sur le chemin du retour, devant la gare des autocars de Jérusalem, je suis assise sur nos sacs à dos, pareil à cette jeune June qui voyageait en Europe il y a 24 ans. Sauf que la June d'aujourd'hui ne cherche plus, elle a trouvé. 11 mai. La maison, mais encore de l'énergie qui vient en moi. Toutes mes perceptions forment une musique. J'entends l'harmonie de l'univers. Chaque souffle, chaque signe, toutes les matières, toutes les couleurs me sont tangibles, tout chante. Mais pourquoi ce mysticisme de la mort et d'ombre qui plane sur Hébron et le caveau des patriarches? Je ne peux maintenant ni le voir ni le ressentir. Je ne le veux pas. Anna souhaite établir une communauté dont le but serait d'aider les gens à ouvrir leur esprit et leur psyché. Une sorte d'école spirituelle dans le désert de Judée ou dans le Négev. Peut-être la rejoindrons-nous? Nous avons toujours rêvé de faire ce genre de choses. Franck pourrait enseigner Maïmonide et Platon. Je donnerai des leçons de yoga et de littérature. Nous aurions un potager avec nos propres légumes, comme autrefois aux États-Unis. Anna dit qu'elle a été conduite en Israël pour accomplir cette tâche. Et il nous semble que nous aussi, nous avons été poussés ici pour faire quelque chose qui en vaille la peine. 28 mai, le soir. Je n'aime toujours pas écrire pendant le Shabbat, mais quelqu'un que nous connaissions vient juste d'être tué. Cet après-midi, vers 3h30, juste après les 2 jours saints de Shavuot, nous avons entendu des sirènes. Elles se sont arrêtées tout près de chez nous. En nous précipitant à la fenêtre de notre chambre, nous avons découvert des jeeps de l'armée et des ambulances vers le caveau des patriarches. Des gens couraient déjà là-bas et nous avons appris un peu plus tard qu'un étudiant de la yeshiva, Ares Shmuel, venait d'y être poignardé par 3 Arabes. Il allait à la prière. Ils sont arrivés derrière lui, ont enfoncé leur couteau et lui ont volé son arme avant de partir en courant. Des amis à lui l'ont trouvé baignant dans son sang. Baruch Goldstein a rédigé le certificat de décès. Ares allait très tôt à la prière, bien avant les autres. La religion l'aidait à vivre une situation difficile dans sa famille. Il y a 2 semaines, Samuel a eu une longue conversation avec lui sur la foi et la religion juive. Ma propre foi, je la trouve dans le yoga et la méditation, pas dans le judaïsme. 29 mai. Toujours pendant le Shabbat, qui a commencé la nuit dernière et continuera jusqu'à ce que les étoiles apparaissent dans le ciel de ce samedi. Parce que son corps n'a pu être enterré aujourd'hui, selon la loi juive, Ares Shmuel a été transporté à l'Institut médical de Kiryat Arba. Pour des raisons qu'on aimerait bien connaître, son cadavre fut placé devant une fenêtre du rez-de-chaussée, simplement recouvert d'un drap blanc. Tous les enfants de Kiryat Arba, ou presque, dont les nôtres, viennent de passer leur Shabbat à contempler le mort. Ce cadavre est-il supposé accroître leur colère? Ou est-il entreposé là jusqu'à ce que cette puante situation d'insécurité nous prenne à la gorge? Les jours se suivent, très variés, pour les grands comme pour les plus jeunes. des cours de danse pour Esti, une rencontre fortuite au bord de la mer morte, à Nguédi, d'une rencontre sur la plage, un groupe de femmes faisant du yoga, et parmi lesquelles, celle qui semble être la responsable. Et voilà June qui va reprendre contact avec cette responsable, ce qui lui permettra aussi de renouer avec le yoga qu'elle pratiquait autrefois et avait juste laissé de côté en devenant juive orthodoxe. Anna et June semblent faites pour travailler ensemble, peut-être dans l'avenir. N'oubliez pas, si vous voulez connaître la suite du livre « Vivre à Hébron » de June Levitt, écoutez-la sur Radio Alliance Plus, l'émission « Je lis pour vous ». À bientôt, chers auditeurs.